Rencontre avec Loïc Barrière sur Radio Orient.
L'invité de rencontre est Fawzi Skali, président du Festival de Fès de la culture soufie à l'occasion de la 15e édition qui se déroule du 22 au 29 octobre 2022, un festival organisé en partenariat avec Radio Orient. Bonjour.
Bonjour.
Alors Fawzi Skali, comment est né ce festival de la culture soufie à Fès? Dans quel esprit l'avez-vous conçu?
Alors donc c'est un festival qui va connaître bientôt sa 15e édition. Donc il a une certaine histoire derrière lui, mais en vérité, il a aussi une préhistoire, si je puis dire, qui est celle d'être issue d'un autre festival que j'avais créé en 94, donc ça remonte à un certain temps, et qui est le Festival de Fès des musiques sacrées du monde. Voilà, et que donc à partir de cela, il y a ce processus qui s'est entamé, d'abord pour réconcilier Fès avec, si je peux dire, l'esprit de son héritage andalou, puisque ce Fès est profondément marqué par cet héritage, à la fois sur le plan évidemment des édifices et des monuments, des arts vivants aussi, les musicaux, culinaires, l'art de vivre, mais aussi de cette tradition de la convivialité, de faire coexister ensemble un certain nombre de traditions spirituelles diverses, abrahamiques, notamment juives, chrétiennes et musulmanes. Or, tout ça, c'était un peu perdu dans l'histoire. C'était resté quelque chose de bien plus nostalgique que dans la réalité. Sauf que, bien sûr, il y a eu quand même une convivialité qui a perduré jusqu'à aujourd'hui, avec la tradition juive à Fès en particulier. Mais pour faire revivre tout cela à une échelle beaucoup plus grande, il a eu cette idée de créer le Festival de Fès des musiques sacrées du monde et son colloque « Une âme pour la mondialisation ». Et puis, au fur et à mesure que se réalisait ce travail et ce parcours, je me rendais compte que ce qui était la matrice de tout cela, ce qui rendait possible cela, c'était cet héritage culturel du soufisme, qui est cette voie mystique de l'islam, mais qui est une voie qui ouvre à cette quête de l'universel et aussi à cette attitude d'accueil des différentes traditions, des différents cultes, des différentes spiritualités. Et ça, depuis toujours, on peut observer cet état de fait, par exemple, dans des villes comme Konya, là où était le fief, et où se trouve actuellement le mausolée du grand Rumi. On peut trouver ça évidemment en Andalousie, à Cordoue, en Murcia, le berceau d'Ibn Arabi. Et puis, il m'a semblé important et intéressant de faire vivre cette culture, non pas simplement là aussi comme une sorte d'héritage historique, mais de lui donner un aspect vivant, et en l'occurrence à travers les arts spirituels, le Sama par exemple, mais aussi les tables rondes, la pensée, la transmission des grandes œuvres, et ainsi de suite.
Fawzi Skali, comment pourriez-vous définir le soufisme dont on dit souvent qu'il est le cœur de l'islam?
Eh bien, c'est une voie d'intériorisation spirituelle, c'est-à-dire de connaissance de soi, et de transformation de soi par cette connaissance. C'est un itinéraire intérieur, ce qui est d'ailleurs le propre en réalité de toute religion. Toute religion doit permettre de se relier à travers cette dimension du vécu, de l'élévation, si je peux dire, de notre conscience intérieure, d'une plus grande proximité à notre source d'être qui est une source divine du point de vue de la mystique soufie. Et donc, comment est-ce que spirituellement, on traverse les différentes étapes de cette voie? N'est-ce pas, Sainte Thérèse d'Avila, dans Palacios, disait d'ailleurs qu'il y avait en elle une certaine influence, une présence aussi de cette voix soufie andalouse. Elle disait que dans la voix de mon père, il y a plusieurs demeures. Il y a un peu ces demeures, ces étapes de progression intérieure, d'élévation de la conscience, dans le soufisme, on appelle les makams. Et donc, pour cela, il y a une initiation, il y a une transmission, il y a un accompagnement qui se fait, ça se fait dans le cadre de ces confréries soufis, construites autour d'un guide spirituel. Il y en a beaucoup. Le Maroc est, en l'occurrence, une terre du soufisme depuis plusieurs siècles, mais plus largement, beaucoup d'autres pays, Turquie par exemple, en Asie, l'Indonésie, la Malaisie, il y a eu une influence très très importante de ces voies du soufisme qui ont aussi sécrété, à part d'être des expériences spirituelles vécues et si je puis dire guidées vers une sorte d'apprentissage et de connaissance intérieure, eh bien il y a aussi une production culturelle, artistique, intellectuel, qui fait qu'il y a un patrimoine culturel immense qui s'est créé autour de ces voies pendant des siècles. Alors il y a toute une poésie qui est considérable. On peut penser par exemple à Rumi que je citais tout à l'heure avec son Matsenawi qui fait quelque chose comme 25 000 distiques, je crois, 50 000 vers, dédiés uniquement à parler des différents aspects de cette approche mystique et donc ces différents aspects de découverte de l'amour divin en soi-même, de cette aspiration de l'âme vers sa source éternelle, vers l'aimé, vers la présence de l'aimé. Et donc tout cela se fait avec une symbolique extrêmement forte, extrêmement puissante. Il y a cette symbolique à la fois de la relation entre l'amant et l'aimé, entre le chantre ou les chansons et celui qui reçoit le vin. On parle beaucoup de vin, alors c'est une tradition musulmane, le vin est très présent, mais on parle évidemment de ce vin spirituel, c'est-à-dire de cette saveur, de cette énergie qui transforme notre conscience et nous permet d'avoir des perceptions d'un niveau plus élevé et plus fin et plus proche de notre identité la plus profonde. Donc tout cela va constituer des traités, des textes, une littérature, des contes, parfois même un humour particulier avec des histoires qui sont relatives à Mola Nasruddin ou bien le Goa égyptien ou le Jura maghrébin. Et donc il y a tout un univers qui va se créer autour de cette culture du soufisme qui n'a peut-être pas été suffisamment, même dans les pays musulmans, pris dans les dernières décennies ou bien peut-être même les derniers siècles dans son aspect patrimonial, c'est-à-dire dans ce qu'elle a produit de ce point de vue culturel. On l'a vidé comme quelque chose, si je peux dire, comme un bouillon de culture naturelle, mais on ne prenait pas suffisamment conscience du fait que ça avait une connexion avec cet enseignement spirituel et qu'il y avait des expressions, des déclinaisons de cette culture-là à travers l'ensemble du monde arabe et que tout cela constitue un patrimoine d'une richesse absolument extraordinaire et très très diversifié. Et donc je parlais de la poésie, de la littérature, de l'art de vivre aussi et des musiques, et en l'occurrence, c'est ce que nous vivons aussi dans ce festival de la culture soufie, puisque nous faisons vivre des traditions musicales, des soufismes qui sont très diverses, depuis par exemple les traditions mogoles de l'Inde du Nord, n'est-ce pas, ou qui sont le résultat ou la convergence des influences à la fois hindouistes et de l'islam soufi, à partir du XVIe siècle, et ce qui va constituer d'ailleurs la soirée d'ouverture qui va avoir lieu le 22 octobre, jusqu'à les derviches tourneurs qui sont aussi bien connus en Occident et qui sont issus de ce grand maître qui est Jalaluddin Rumi. Et dont actuellement le berceau se trouve à Konya. C'est là où il y a la présence de cette confrérie qui est exprimé aussi par cet art à la fois chorégraphique et spirituel qui est celui des dervis sauteurs. Et il va être aussi également présent avec nous lors d'une soirée du festival, et je crois que ce sera celle du 28 octobre. Donc il y a un voyage à travers ces cultures, il y a un voyage à travers ces enseignements, il y a aussi des connexions, et c'est ça qui est aussi très intéressant, qui se sont toujours naturellement établies entre cette spiritualité et les autres spiritualités. Partout où le soufisme est présent, il y a cette espèce de convergence, de Teilhard de Chardin disait que tout ce qui monte converge, et eh bien on vit cela un peu à travers cette culture. Et donc les rencontres interculturelles et interreligieuses se font d'une manière particulièrement intéressante dans ce contexte.
Faouzi Skali, pour cette 15e édition du Festival de Fès de la culture soufie, vous avez choisi le thème « Science et conscience », ce qui nous renvoie à la fameuse citation de Rabelais « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». C'est un sujet très contemporain à l'heure où le numérique prend parfois le contrôle de nos vies.
Vous avez tout à fait raison, je crois qu'il y a cette idée derrière. Parce que je pense que nous voyons tous avec un certain désarroi de quelle façon il y a un processus, si je puis dire, de déshumanisation qui est en cours par les technologies de la communication, certes qui nous fascine par beaucoup d'aspects et qui nous surprennent. Il y a toujours des mondes nouveaux qui sont en train d'être développés avec une inventivité souvent presque frénétique, mais en même temps, tout le monde a la sensation que l'humanité finira par y perdre son âme. Alors la question, c'est de se dire comment la spiritualité peut-être sauver l'humanité de ce processus qui semble fatal, et comment est-ce qu'elle peut lui redonner une dimension verticale, qu'elle peut remettre l'humanité debout, elle peut remettre cette connexion avec la transcendance, avec le ciel, et que peut-être qu'une des choses les plus précieuses et qui fait toujours que l'homme sera autre chose qu'une machine aussi intelligente et aussi sophistiquée soit-elle, c'est la dimension du sacré. C'est la dimension de ce qui le connecte à ce qu'il y a de plus profond en lui, de divin, et qui est à la fois immanent, c'est-à-dire plus proche de lui que lui-même, et à la fois transcendantal. Et donc ces grandes sagesses de l'humanité vont probablement pouvoir être mises à contribution, en tout cas c'est ce que nous essayons de faire avec le soufisme, pour recréer peut-être ce qu'on pourrait appeler un humanisme spirituel, un humanisme transcendant. Je crois que nous sommes en train de connaître les dernières phases de l'humanisme tel qu'il a été créé à partir du 14e siècle, puis après le 16e siècle, en différents endroits de l'Occident, et qui ont peut-être poussé vers une émancipation humaine, en quelque sorte en se libérant, en s'émancipant du ciel et de toute forme de transcendance. Mais tout cela est en train d'aboutir par une espèce de renversement tout à fait tragique en réalité, à ce qu'on appelle transhumanisme. L'homme est en train de se nier lui-même à travers cette évolution, et donc il faudrait peut-être envisager aujourd'hui que les spiritualités puissent nous ramener à reconstruire un humanisme autour, non pas contre, mais autour de la spiritualité, qui ne nie rien de tout ce qui de tout ce que peut nous avoir apporté la raison, l'émancipation personnelle, individuelle, mais qui aussi retrouve la connexion qu'elle a perdue depuis longtemps avec la dimension du sacré.
Vous avez le sentiment que les valeurs spirituelles du soufisme pourraient apporter des réponses aux jeunes musulmans qui sont dans une quête spirituelle ?
Je crois que ça peut l'être. C'est un travail de longue haleine. Mais ça peut l'être parce que il y a quelque chose de très intéressant avec le soufisme, c'est que ce n'est pas quelque chose de figé. Le soufisme est une spiritualité vivante, donc elle peut prendre des formes multiples en fonction du lieu où on se trouve, en fonction de notre disposition à recevoir telle ou telle forme d'enseignement. D'ailleurs, il y a un adage soufi qui dit que le soufi est le fils de son temps. On peut le traduire de deux manières, le fils de l'instant et le fils du présent, et ça c'est le propre de toute spiritualité, c'est le vivre, le carpe diem, le présent, mais c'est aussi le fils de son temps, dans la mesure où le soufisme a pris des formes multiples à travers les âges, et c'est ce qui a permet aussi de sauver l'islam des formes de dogmatisme, de formalisme, de repli sur soi qui aujourd'hui, évidemment, on le sait, existe et constitue des dévoiements invraisemblables et aberrants du religieux. Mais précisément, je pense que lorsqu'on perd cette dimension intérieure et spirituelle, et Razali, le grand Razali au IIe siècle, l'avait déjà souligné, eh bien, la religion devient une sorte de coquille vide qui peut être instrumentalisée de toutes les façons possibles. Au lieu d'être, de faire en quelque sorte qu'elle puisse nous amener à dépasser notre ego, elle devient l'instrument de notre égocentrisme et un instrument de pouvoir. Et donc, c'est un enjeu qui est métaphysique, qui est philosophique, qui est social, qui est politique et qui est très important. Mais simplement, moi, je crois qu'on ce qu'on est en train de faire, c'est que justement, on est en train, ça s'est fait un peu naturellement, puisque je parlais un peu de l'évolution depuis une trentaine d'années, de ce projet jusqu'au point où il en est aujourd'hui. C'est vrai que ça s'étend, ça se comprend de plus en plus, les gens sont de plus en plus attentifs à cette culture du soufisme, parce que du soufisme, on n'avait que des images très parcellaires, on croyait que c'était une forme hérémétique, ascétique, qui est en rupture avec le monde, mais on se rend compte non que c'est une forme vivante, que c'est une culture, que ce sont des valeurs, que c'est aussi une, si je puis dire, une donne du sens à la vie. Parce que quand on parle des jeunes, je crois que très souvent, même quand ils sont dans des idéologies mortifères, c'est souvent qu'ils se prennent au piège et qui peut leur être tendu. Mais que l'intention, très souvent au départ, c'est celle de donner un sens. C'est celle de pouvoir aller au-delà du matérialisme ambiant, parce qu'il y a une certaine forme d'intégrisme matérialiste qui parfois domine le monde et qui peut être aussi un étouffoir pour toutes les aspirations des jeunes. Et donc, il y a là un travail qui ne doit pas être du genre d'un prosélytisme religieux. Non, c'est une culture, c'est un peu comme toutes les grandes cultures du monde. Je crois que l'islam a cette possibilité d'apporter cette culture-là, mais il faut encore qu'il puisse en découvrir le sens et la beauté qu'il porte en lui. Et très souvent, l'Occident l'a découvert à travers les siècles. Beaucoup de grands orientalistes, on peut parler de Massignon, qui a fait un travail remarquable sur Al-Hallaj, qu'il a appelé la passion de l'Al-Hallaj. On peut parler de Palacios, par exemple, son travail sur Ibn Arabi, on peut parler de Nicholson, son travail sur Rumi. Le soufisme peut jeter un pont entre l'Orient et l'Occident, tout en faisant qu'on accepte la diversité des convictions, la diversité des orientations, de façon naturelle, et il peut apporter quelque chose de, si je peux dire, qui apporte une forme de sagesse, qui apporte aussi une profondeur de sens à une jeunesse qui est souvent en désarroi.
Merci Faouzi Skali d'avoir accepté le rendez-vous de rencontre sur Radio Orient. Je rappelle que vous êtes président du Festival de Fès de la culture soufie. La 15e édition se déroule du 22 au 29 octobre 2022. Un festival organisé en partenariat avec Radio Orient. Merci.